Le mug sur la première.
Cherchez, cherchez la femme. Vous verrez que je n'ai pas clair d'en avoir l'air.
Avec Cindia Isarelli. Bonjour Cindia.
Bonjour.
Bonjour Cindia.
Bonjour Cindia.
Bonjour.
Cindia.
Bonjour. Cindia.
Ça va aller, on est tous très émus.
Mais tout à fait, parce qu'elle est partie hier soir, la jolie môme, l'amie des poètes et des musiciens. Et donc ce matin, nous aussi, évidemment, on a décidé de dire au revoir à Juliette Gréco.
Au fait, c'est vrai, Juliette Gréco, on n'avait pas prévu votre participation à ce film. Ça fait déjà quelques mois qu'on le tourne, nombreuses semaines en tout cas, et je n'ai pas vu dans la distribution la mention de votre nom. Comment est-ce que ça s'est passé?
De toute façon, on me prévoit rarement.
Oui, on me prévoit rarement, effectivement, Juliette, et la question n'est pas là, même si la réponse complète, je vous en fais grâce, elle fait 8 minutes, parce que Juliette, elle ne répond pas à des questions, elle raconte des histoires. La réponse est un petit roman à elle seule, 8 minutes, où Juliette Gréco, 30 ans tout rond, faut la voir hein, sur la vidéo, noire de la frange à la pointe des chaussures, assise en tailleur avec sa clope, elle explique à ce journaliste avec une nonchalance divine comment, entre deux concerts quotidiens au Waldorf Astoria de New York, devant une salle pleine à craquer, elle reçoit au téléphone des propositions de cinéma américain, aussi banalement qu'une invitation à boire un café. Et c'est comme ça que Juliette Gréco se retrouve un jour de 1957 au casting de l'adaptation cinéma du roman d'Ernest Hemingway, Le soleil se lève aussi, d'Amel Ferrer, entre Ava Gardner et Tyrone Powell, hein, excusez du peu. Et des anecdotes comme celle-là, Juliette Gréco, elle en avait plein les poches. Alors le but de cette série, de cette chronique, vous le savez, c'est de prendre la mesure de l'empreinte laissée par des femmes de talent dans la culture et dans la pop culture. Et il y a peu de gens finalement dont la vie est si finement imbriquée dans le maillage de la culture et des arts français du XXe siècle, à tel point qu'ils donnent l'impression d'en composer la trame eux-mêmes. Et pour cause, hein, parce que c'est le hasard de la vie qui va faire que Juliette Gréco, 16 ans, fille de déportée, va se retrouver toute seule dans Paris. Et elle va être adoptée, et pour ainsi dire élevée, par la faune qui traîne à Saint-Germain-des-Prés vers 1943. Autant dire qu'à l'époque, c'est le centre du monde. Sa première paire de chaussures, c'est Alice Sapritch qui va lui offrir. Alors c'est de la symbolique à deux balles, peut-être, mais pas c'est non. Quand même une sacrée première paire de chaussures pour faire ses premiers pas parmi les esprits les plus brillants du moment. Elle va traîner avec Anne-Marie Casalis, journaliste, écrivain. Elle va au cinéma avec Boris Vian, elle s'engueule avec lui d'ailleurs sur des questions de cinéma. Elle s'installe pour un temps chez Jean-Paul Sartre où elle va tomber amoureuse d'un autre colocataire de l'écrivain, un certain Miles Davis. Ouais.
Alors c'est à la même époque qu'elle assiste à la naissance des existentialistes dont elle devient membre de facto et elle est surnommée la muse de Saint-Germain-des-Prés sans avoir rien fait de particulier jusque-là pourtant.
Oui, et ça c'est elle qui le dit. Hein. Pourtant, bah, c'est finalement quand même le propre des muses que d'inspirer malgré soi. Mais c'est là aussi qu'elle décide, comme elle dit, de justifier sa célébrité en faisant quelque chose, et ce sera de la chanson. Et c'est ça qui est beau chez Juliette Gréco, c'est cette impression de faire les choses par hasard, presque par courtoisie, sans effort, mais toujours avec un talent fou. Alors c'est Jean-Paul Sartre qui va lui offrir sa première chanson, c'est Rue des Blancs-Manteaux, mais on ne trouve dans son répertoire que d'immenses signatures littéraires. Boris Vian, évidemment, qui sera son directeur artistique pendant très longtemps, mais elle va chanter Raymond Queneau, elle va chanter Robert Desnos, elle va chanter François Sagan, Pierre Macorlan, un autre poète un peu moins connu, Jacques Brel, Léo Ferré, Guy Béard, Serge Gainsbourg, évidemment, Jacques Prévert, Aznavour, j'en passe, et tout ça, ça donne des tubes qui nous sont restés dans la tête pendant presque plus de 50 ans, un joli môme, je hais les dimanches d'Aznavour pour lequel elle recevra des prix, Je suis comme je suis, Déshabillez-moi, Les feuilles mortes, Bonjour tristesse, Parlez-moi d'amour, beaucoup de chansons aussi qui ont été portées à l'écran parce qu'elle chante pour le cinéma, en plus d'y jouer, des orchestrations de Joseph Kosma, de Kurt Weill, de Michel Legrand, de Charles Trenet, bref, j'arrête le chapelet parce qu'il est infini, mais elle défendra toujours son statut d'interprète, Juliette Gréco, un statut qui fait qu'elle préfère mettre sa voix et son charisme au service d'un texte et d'un auteur plutôt que d'écrire ses propres chansons, et parmi les noms nombreuses très jolies choses qu'elle a dites, il y a celle-ci, elle dit « Une chanson, c'est grave. Une chanson, ça va dans les oreilles de tout le monde, ça se promène dans la rue, ça traverse la mer, c'est important, une chanson, ça accompagne votre vie. » Et les poètes, les musiciens, ils ont besoin d'interprètes parce qu'ils ne sont pas toujours les meilleurs interprètes de leurs œuvres. Quelquefois, nous trouvons des choses qu'ils n'ont pas entendues eux-mêmes, et c'est pour ça que je suis au service des poètes. Et ce dialogue avec les poètes, elle l'entretiendra pendant toute sa carrière, elle n'arrêtera jamais les collaborations, y compris avec les plus jeunes générations, à tel point qu'Abdel Malik, qui lui a écrit un album en 2009, lui a aussi dédié ce titre en 2015 qui s'appelle Juliette Gréco.
Quand la rue à François Sagan m'est proche, Saint-Germain-des-Prés a pris des allures de New York. Fort heureusement, le Peura fut pour moi comme pour elle fut Jean-Paul Sartre. C'est finalement normal, gros, que Gibraltar devint légendaire comme la rue des Blancs-Manteaux. Juliette Gréco.
L'offense n'est jamais celle que l'on pense. Ne décrétèrent-ils pas qu'on était laid dès l'enfance?
Juliette Gréco. Juliette Gréco qui inspire les écrivains, les cinéastes, les rappeurs, les chansonniers, mais c'est aussi une icône de mode.
Bah oui, évidemment. Alors on dit souvent que la parisienne n'existe pas, que c'est une invention marketing pour vendre aux femmes des fringues trop chères dans lesquelles on se les gèle. Cela dit, si on devait décider qu'elle existe, la parisienne, cette parisienne emblématique, bien personne ne lui a ressemblé autant que Juliette Gréco. Parce qu'après la guerre, elle se promène avec ses longs cheveux noirs, sa frangerette, son pantalon, ses chemises aux manches retroussées, mais c'est pas un effet de mode, c'est juste que pendant l'occupation, elle débarque à Paris sans rien d'autre que la robe d'été qu'elle a sur le dos. Et quand elle crèche chez Jean-Paul Sartre, c'est un copain qui lui prête un costume de garçon, elle l'enfile et elle invente le style Saint-Germain-des-Prés sans le savoir, sans le vouloir. Quant à sa fameuse robe noire, son look total black, c'est une vieille robe Pierre Balmain qu'elle a chopée au solde et ça va devenir en fait ce qu'elle appelle son noir de travail, un noir de travail comme son eyeliner qu'elle aime beaucoup et qu'elle porte depuis ses 16 ans. Et le succès est au rendez-vous, Dior lui dessinera des robes de scène, Mine Baral, Jean-Paul Gaultier lui consacrera une collection complète en 1982. Bref, elle devient une véritable icône, encore une fois à l'insu de son plein gré. Alors il y aura encore un million de choses à vous raconter sur Juliette Gréco. On résume pas 70 ans de carrière en 5 minutes, les biographes officiels s'en chargeront d'ailleurs, mais ce qui est certain, c'est que non, personne n'avait prévu Juliette Gréco, à commencer par elle-même, et c'est sans doute ça qu'on appelle le destin.
J'avoue, je n'ai pas vu pas vous, mon amour, avant d'avoir vent de vous, mon amour.